Chapitre 13 Nécromancie. Or, Stéphane n'était pas sans connaître le genre de recherche et d'expérience auxquelles se livraient les deux spirites de la rue d'Assas. Aucune branche de l'occultisme ne leur était étrangère, mais il s'était fait une spécialité d'entretenir avec les morts un commerce assidu. C'étaient des nécromants. Ainsi du moins se laissait-il nommer sans trop de justesse, car le nécromant ou nécromancien fait état d'évoquer les morts afin d'obtenir de leur complaisance quelques indiscrétions touchant l'avenir. Et les spirites de la rue d'Assas négligeaient une pratique qui ne leur avait procuré que des déboires. Ils se contentaient d'entrer en rapport avec les défunts, sans les mettre en demeure d'inventer des balivernes ou d'avouer leur ignorance, ce que de mémoire hors d'homme un mort n'a jamais fait. La conversation d'un monde à l'autre roulait uniquement sur les affaires du présent et du passé, et les erreurs que les esprits commettaient sur ce chapitre prouvaient a fortiori combien les temps futurs leur sont inconnaissables, malgré cette réputation de devin qu'ils s'efforcent si résolument de soutenir. M. Édouard Orlac évoquait les trépassés par le moyen de tables et guéridons ou par l'intermédiaire de ces personnes privilégiées bien connues sous le nom de médium. Il avait publié, sur la matière, des ouvrages fort appréciés, signés du pseudonyme Apollonius d'Endor, L'ombre de Samuel, Mysterium Maximum, Précis d'incantation et 6 expériences de communication avec l'au-delà, à l'aide du médium Eusebio Nera. Ce dernier travail faisait autorité. Il est vrai que le sieur Eusebio Nera avait disparu mystérieusement le jour même où les 6 expériences devaient être répétées sous les yeux de savants, commises à cet effet, mais l'auteur jura, foi d'officier ministériel, que son livre était l'expression de la pure vérité, et maître Édouard Orlac, soutenant Apollonius d'Endor, le notaire sauva le spirit. Le chevalier, en sa qualité de peintre psychiste, employait d'autres truchements pour communiquer avec les ombres. Il n'avait pas jugé utile de publier sa méthode. D'ailleurs, la nécromancie l'intéressait moins que la peinture, à laquelle on va voir qu'il l'avait associée d'une façon curieuse et subtile. Il y avait peut-être une heure que Regina avait remis à M. de Crochant la lettre de Rosine, lorsque Stephen pénétra dans l'atelier de la rue d'Assas. Il le retrouva tel qu'il l'avait vu lors de sa dernière visite plusieurs semaines auparavant. « Toi !» s'écria le chevalier, exprimant la plus joyeuse surprise. « Toi, chez moi, mais quel bonheur !» « Que voulez-vous ? » dit Stephen avec un pâle sourire. « N'êtes-vous pas avec mon père toutes les fois que je viens dans cette maison ? Je vous vois donc en même temps que lui et je suis loin de m'en plaindre. N'empêche que c'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver au milieu de vos œuvres. J'adore cet atelier. Ah, mais qu'est-ce que ça représente, ça ?» Il désignait une toile commencée, posée sur un chevalet. Monsieur de Crochant, vêtu d'un sarrau noir, tenait une large palette enduite d'un frais barbouillage multicolore. Son pouce embrassait un faisceau de brosse dont le bout s'allumait des teintes les plus vives. La peinture à l'huile exhalait son odeur. « Ça, Philpott, mais tu ne sais pas ? Tu ne saisis pas ? Une aurore boréale ?» Béotien, mais ça s'appelle volupté. Bon, il observait Stephen et remarqua ses efforts pour paraître à l'aise. Il lui versa un verre de Malaga et ils fumèrent des cigarettes turques en buvant le vin d'Espagne. Guillaume le squelette tressaillit encore de la gigue dont l'entrée de Stephen l'avait secoué. En face de lui, le mannequin attira l'attention du visiteur. « Eh, voilà Oscar. Oh, toujours sympathique, Oscar. Mais pourquoi l'avez-vous habillé en pâtissier ? On dirait la poupée du marchand d'habits. » Monsieur de Crochant, placé dans l'ombre un peu en arrière de Stephen, ne le quittait pas du regard. Oscar, bien éclairé, n'était plus le yogi de naguère. Un complet veston, tout neuf et tout blanc, l'habillait à l'européenne. Une casquette de voyage laissait voir ses yeux verts. Ses mains de bois étaient ornées de verroteries violettes. Stéphane le considérait sans donner le moindre signe d'effarement. Pâtissier, se récria le chevalier, oh, tu en as de bonne. C'est de la flanelle, mon garçon. Oscar est un gentleman. Mais qu'est-ce qui t'intrigue? Mais rien du tout, répondit Stephen. Il n'avait pas sourcillé. Parfaitement calme. Ils étaient debout. D'un geste familier, le peintre ceintura le torse du jeune homme sous prétexte de l'entraîner vers une toile et put constater que son cœur battait sans hâte, avec une régularité parfaite. Le chevalier allongeait sa main vers le tableau. Que penses-tu de cette mélancolie? Demanda-t-il. Oh, ton père en est toqué. Et sans attendre la réponse, tu sais, il est furieux, ton père. Ces médiums ne lui donnent aucune satisfaction. Les morts n'obéissent plus comme autrefois. Il regrette le temps de ses vieux déras, dit Stephen, s'engageant volontiers dans la voie qu'on lui offrait. C'était donc un homme extraordinaire, un peu farceur, n'est-ce pas? Et comment? Fit le chevalier, qui se reprit pour dire avec précipitation. Mais attention, tous les médiums ne sont pas des farceurs, comme tous les occultistes ne sont pas des dupes. Oh, tu as beau faire, c'est comme ça. J'ai connu d'assez grandes figures en occultisme. Éliaçat Ramadan, Jules Piton, le sar Melchior. Or, le sar Melchior, voilà un beau type de spirit, tiens. C'était mon ami. Nous avons réussi, ton père, lui et moi, des expériences admirables. Tu l'as pas connu, toi, le sar? Melchior Chapelot, tu sais bien. Oh, je ne fréquente point chez les mages, s'excusa Stéphane en souriant. Oh, celui-là, c'était un dandy. Tu aurais pu le rencontrer dans le monde, mais il est mort trop tôt pour la science. Il aurait convaincu les plus incrédules. Il t'aurait convaincu, toi. Stéphane, peut-être méfiant, éluda ce coup direct. Mais les médiums, dit-il, qu'est-ce que c'est que ces gens-là dans la société? Y a-t-il des médiums de profession? Monsieur de Crochant se garda bien de contrefaire la surprise qu'une telle question de la part de Stéphane aurait dû lui causer. Il dit négligemment: Oh, on en rencontre de toutes les façons. La plupart ne sont pas assez renommés pour vivre de leur faculté médiumnique. Le Sébillot des rats avait tous les métiers. Oh, je l'ai connu orthopédiste. Lydia Truchet est devenue somnambule après avoir été sage-femme. John Smith, dit Ethelred, fut jadis prestidigitateur, mais il voudrait bien qu'on l'ignorât. Non, on prend pas cet air entendu. Ethelred est plus loyal que bien d'autres. Du reste, Antonini, qui est cartonnier, extériorise des formes humaines, tangibles et photographiables. Et la fleuriste Thérèse Panard, que nous appelons Stella, crayonne d'admirables portraits quand les esprits lui guident la main. Mais ne peut-on se passer de leur intermédiaire? Moi, je m'en passe, dit le chevalier, fort satisfait de la tournure que prenait la conversation. Je n'ai besoin de personne pour entrer en relation avec les esprits. Et le premier venu peut en faire autant s'il emploie mon système. Veux-tu téléphoner ou plutôt télégraphier dans le royaume des ombres? Il ne t'en coûtera rien. Quoi, je pourrais comme cela? Quelle farce! C'est un mot que l'on dit parfois avant l'expérience, mais rarement après. Essayons pour voir. Tu as peur, hein? Peur? Vous voulez rire, moi? J'ai peur d'être un nigaud. Oui, da, vous êtes tous les mêmes. Vous avez peur des morts. Non, vous n'aurez pas le dernier, dit Stephen. Essayons. De petites taches rouges enflammaient ses pommettes. Son œil brillait d'un éclat fébrile. Le souci reprenait possession de sa face. Monsieur de Cochamps ferma sur la grande baie vitrée un rideau sombre et fit la nuit dans l'atelier. Presque aussitôt, une lumière de sépulcre éclaira faiblement un coin reculé où des cassolettes se mirent à fumer comme par enchantement. Le relent des caveaux et l'arôme des chapelles frappèrent à la fois les narines de Stephen. Je ne connaissais pas vos talents de magicien, prononça-t-il d'un ton légèrement guttural. On ne répondit pas. Le chevalier l'emmenait vers l'encoignure hypogéenne. Cette clarté verdâtre prêtait à toute chose une apparence lugubre. Entre deux trépieds d'où s'échappait un nuage onduleux, on découvrait en pan coupé une sorte d'autel argenté supportant une manière de cadre terminé par un fronton triangulaire. Ce fronton se hiératisait d'inscriptions kabbalistiques, et ce cadre, qui ressemblait à la fois au portique d'un temple et à la scène d'un théâtre, était clos par une draperie noire frangée d'argent. « Assieds-toi, » dit le chevalier d'une voix qui semblait résonner sous une voûte. « Aujourd'hui, je ne te ferai pas connaître le suprême arcane de mon savoir. Mon dernier procédé pourrait effrayer les plus braves. Ce sera pour une autre fois. » « Ah, ça, c'est merveilleux !» ricana Stephen. « On se croirait dans une catacombe et vous avez l'air d'un cadavre. »« Prends ces glands, hein, dans chaque main. » Deux tresses pendaient à droite et à gauche du cadre. Chacune d'elles s'achevait par un gland. Stephen, assis devant l'autel, sur un tabouret, prit les glands comme il était prescrit. « Écoute à présent. » Un tableau va paraître à tes yeux. Il est peint sur une toile tissée d'aloès et de lin. Les fils de cette toile se continuent au-delà du châssis. Nattés en deux tresses, c'est eux dont tu tiens l'extrémité. Les fils de trame aboutissent à ta main gauche, les fils de chaîne à ta main droite. Regarde à présent. Les deux tresses accusèrent le frisson de celui qui les tenait. Le rideau noir venait de s'écarter, et l'on apercevait, au fond d'une logette, un spectacle inoubliable. C'était, dans le clair-obscur des cryptes, une tête coupée, suspendue par les cheveux. Une tête de jeune homme barbu, d'une auguste beauté. Les cheveux bruns avaient des reflets roux. Le visage, empreint de la sévérité mortuaire, affectait la pâleur superlative qui suit la décapitation. Dans l'ombre bleue des orbites, les yeux fermés joignaient leurs longs cils, et les lèvres s'exsangues étaient la représentation du silence. L'éclairage savant augmentait l'illusion. Un relief étonnant modelait le trompe-l'œil. Stephen ne pouvait croire que ce fût une peinture étalée sur une toile plate et non quelque simulacre exécuté d'après nature par un artiste affreusement habile. On eût dit un nerf dans l'espace. Il y avait là toute l'horreur de la vérité avec toute l'émotion de l'art. Mais le rideau noir en s'écartant avait livré passage à une vague de froid imprégnée d'une odeur terreuse, si étrangement sépulcrale, qu'un doute subsista dans l'esprit de Stephen, touchant la véritable nature de cette machination. « Saint Jean-Baptiste » demanda-t-il. « Non, personne et tous, » répondit le chevalier, « tous les morts. Ceci n'est pas de la nécromancie proprement dite, comme tu vas le voir. » Nous sommes en présence d'un simple perfectionnement des tables parlantes. Mais les esprits semblent préférer ceci aux tables. Et que dois-je faire? Fixer les yeux du mort. Bon, voilà, et après? Attendre qu'il s'ouvre. Plaît-il? S'exclama Stephen en sursautant. Oui, les paupières se lèveront et s'abaisseront autant de fois qu'il y a de lettres dans l'alphabet. jusqu'à celle que le mort veut indiquer. Cette méthode accouple le système des tables parlantes et le moyen utilisé par certains docteurs qui, d'accord avec les patients, ont tenté de savoir si la tête d'un guillotiné survit quelques instants à la décollation. Stéphane se retourna. « Ah, vous avez un truc, allons !»« Non, sur mon honneur, je te jure que non !»« Ah, j'oubliais. Rien ne doit transpirer des révélations de l'au-delà. Ni toi, ni moi n'en devons rien trahir. Le secret du tombeau ne peut être confié qu'à des tombeaux. » La gravité du spirit déroutait son élève. Ce joyeux de riz, devenu tout à coup sérieux comme un officiant, donnait de l'occultisme une assez haute idée. Stephen eut un mouvement involontaire des sourcils. Monsieur de Crochant l'observait, et cela était aisé, car la lueur de l'antre projetait sa lividité sur la figure du jeune homme et l'éclairait comme un soupirail. Cette figure, ainsi revêtue des teintes du trépas, se montrait attentive et quelque peu soucieuse. « Regarde, je noterai les lettres à mesure que tu les énonceras. Ben, »« Les énoncer, moi, pourquoi pas vous ? » ?»« Ben, parce que tu seras le seul à voir les yeux s'ouvrir, étant seul à tenir les tresses. » Pendant quelques instants, Stephen concentra toute son attention sur les yeux du décapité. « Est-il nécessaire que je pense à quelque chose de spécial ?» dit-il sans interrompre sa visée. « Oh, nullement, nullement. Le mort commencera par nous révéler son nom. Oh, j'ai distingué un frémissement. Bien, qui es-tu, ô mort ? Sois le bienvenu. Ne crains pas d'animer cette forme inerte. Descends parmi ceux qui n'ont pour tes pareils que du respect. Ô mort, qui es-tu ? Ah ! Dit Stéphane. Les paupières s'ouvraient lentement. Deux yeux posaient sur lui un regard doux et pénétrant. Il vit les paupières se refermer et commencer de battre sans hâte, ralentissant parfois leur diction muette. B, C, D, E, F. Il eut plusieurs hésitations. Des lettres s'espacèrent, notamment vers la fin, puis comme si en vérité le mort eût cligné pour s'éclaircir la vue, M. de Crochant entendit se succéder précipitamment UVWXYZ. Z, s'écria-t-il, continue. De nouveau, le mort indiqua la lettre Z. Puis Stephen déclara que ses yeux ne voulaient plus bouger. « Ah, ça ne marche pas, » conclut le spirit, « il y a quelque chose qui cloche. »« Je suis fatigué, » dit Stephen. « Allons, un peu d'énergie. C'est ma faute aussi, j'aurais dû préciser. Les morts seront venus en foule. Voyons, précisons. Désires-tu converser avec un mort particulier ? Veux-tu que nous appelions, qui, je sais pas moi, un grand musicien ? Précisons davantage, un grand pianiste. Oh, si vous voulez, mais dans une minute, je ne sais pas pourquoi vous me voyez éreinter. Oh, il n'y a que de naturel, mon garçon, allez, repose-toi. » En face de la tête blafarde qui diffusait sur lui sa réverbération, Stephen, à bout de force, fermait les yeux comme elle. Allez, bois un peu de Malaga. Il vida son verre. Eh bien, bon, m'y voici. Commences-tu à croire que je ne suis pas un illusionniste ? Cette fatigue, oui, j'ai tendance à le croire. Tendance, tendance. Mais je veux que cette tendance devienne la foi. Allez, reprends les tresses. Esprit des morts, nous appelons ici les mânes d'un grand pianiste défunt. Ô bras courts, dis-nous le nom que tu portais parmi les vivants. A, B, C, D. Les yeux battants s'arrêtèrent sur la lettre S, puis sur le T. Puis sur eux, Stephen, malgré son émotion, continuait vaillamment à lire et à parler. La dernière lettre fut un C. Le néophyte avait lâché les tresses et regardait dans la demi-ténèbre la silhouette confuse du chevalier. Celui-ci restait silencieux. Tous deux cherchaient des phrases qu'ils ne trouvaient pas. Le mort avait dicté son nom et son nom s'écrivait Stephen Orlac.